est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Un homme ayant vécu les années qui conserveront à juste titre l'appellation de belle époque a l'émouvant privilège de présenter cet album de disques 1900. 1900, les fiacres, les ombrelles, les chapeaux de paille, la France du bonheur et de l'amour.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Voici donc que pour cette émission s'ouvre une 19e saison. C'est une longévité que je dois, avec une gratitude qui est immuable, à la confiance des dirigeants de cette maison, de cette chaîne, si rare et si précieuse, et à la fidélité inaltérable de nos auditeurs. Mais trêve d'émotion, j'ai choisi pour cette rentrée un thème qui m'a paru propre à incarner au mieux le propos qui nous réunit chaque samedi. Il s'agit de la belle époque à laquelle mon invité, Dominique Khalifa, professeur à la Sorbonne, a consacré un livre stimulant. Il ne s'y attache pas tant à la réalité de ce que fut la France au tournant des 19e et 20e siècles qu'à la manière dont l'idée s'en est progressivement définie après coup dans la sensibilité des générations successives. Et cela selon deux ressorts qui sont à la fois conjugués et contradictoires. D'une part, la nostalgie d'un temps disparu qui contrasterait avec les rudesses éprouvées dans les successives périodes ultérieures, et d'autre part, l'espérance que vienne à ressurgir en rebond de l'histoire quelque chose comme un état de grâce où la collectivité nationale retrouverait une pleine confiance en son destin, l'unité d'un vivre ensemble harmonieux, une certaine légèreté de l'air et en somme l'art d'être heureux. Qu'il s'agisse pour la période concernée d'une assez large illusion entretenue après coup par la littérature, la chanson, le cinéma et les mémoires embellies des vieillards, je n'ai pas besoin de le dire. Mais c'est précisément cette étrange alchimie qui mérite, car elle a existé aussi pour d'autres temps, d'être attentivement considérée. Pour commencer, retrouvons la grande Fréhel dans Pépé le Moko, le film de Jean Duvivier de 1936, Fréhel qui parle à Jean Gabin.
Faire comme moi, Pépé. Quand j'ai trop le cafard, change d'époque.
Change d'époque?
Oui. Je pense à ma jeunesse. Je regarde ma vieille photo et je me dis que je suis devant une glace. Je remets un de mes anciens disques du temps où j'avais tant de succès à la Scala Boulevard de Strasbourg. Je paraissais en scène dans un décor champêtre avec un projecteur rouge braqué sur mon visage pâle. Et je chantais.
Il y en a qui vous parlent de l'Amérique. Ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique. Notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide. Bref, on y part un jour de cafard. Encore une plus qui le ventre vide. À New York cherchera un dollar. Parmi les gueuses et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regrettant Paris. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Où sont-ils donc? Mais Montmartre semble disparaître, car déjà de saison en saison, des abbesses à la place du tertre ont démoli nos vieilles maisons. Sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Où ferez-vous alors vos culbutes, vous les pauvres gosses à poulbeaux? En regrettant le temps jadis, nous chanterons pensant à Salis, Montmartre ton des profondes. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous c'était dimanche, où sont-ils nos amis, nos copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Sont-ils donc? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son d'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand je bouffais, même sans avoir un rang? Où sont-ils donc?
Dominique Khalifa, bonjour.
Bonjour.
Nous avons là tous les éléments d'une nostalgie, un décor, une époque, une pauvreté sublimée, la jeunesse des enfants, les Poulbeaux. Poulbeaux, c'était le dessinateur de Montmartre. Tout cela constitue ce regard mythifié sur le passé.
La chanson dit presque tout. On est en 1936, c'est-à-dire à peu près au moment où l'imaginaire Belle Époque est en train de se constituer. Fréhel, qui avait été une immense vedette à cette époque, est une femme vieillie, grossie, enlaidie, qui a plus beaucoup de succès, et elle met sur le tourne-disque devant la caméra la chanson de ses 20 ans. Et elle va finalement, au bout du compte, verser quelques larmes en écoutant et en pensant au temps où elle était belle et où elle avait du succès. C'est la Belle Époque.
C'est l'histoire d'un imaginaire que nous allons faire ce matin.
C'est l'histoire d'un imaginaire, c'est comment et pourquoi la société française, et puis même au-delà, a fantasmé comme ça et a réinventé en quelque sorte le temps béni de ces 20 ans.
C'est ce que vous appelez d'un mot savant, mais qui mérite, je crois, d'être considéré, vous appelez ça un chrononyme.
Alors oui, c'est un terme de linguiste, hein. C'est une dame qui s'appelle Eva Buchy qui avait forgé ce mot, ça dit très bien ce que ça veut dire, à savoir effectivement les noms du temps, hein. Nous donnons des noms propres au temps, et nous les utilisons de façon naturelle, mais c'est bien aussi de savoir effectivement quand, comment, pourquoi ils ont été forgés. Et d'une certaine manière, toute l'idée de ce travail, ça a été d'élucider en quelque sorte le nom du temps, le chrononyme Belle Époque.
Par exemple, Trente Glorieuses, Glorieuses, le Risorgimento, ou l'Entre-deux-Guerres.
L'Entre-deux-Guerres.
On a peine à ne pas imaginer que ceux qui ont vécu l'Entre-deux-Guerres savaient que c'était l'Entre-deux-Guerres.
Bien sûr. Et du coup, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est important, parce que même si on est très, très attentif en historien, parler de l'Entre-deux-Guerres, ça sous-entend toujours un petit peu que les gens n'ont pas vraiment bien vu monter les périls, qu'ils n'ont pas compris qu'ils vivaient dans un entre-deux-guerres, mais évidemment non, ils n'ont pas compris qu'ils vivaient dans un entre-deux-guerres, comme ils ne comprenaient pas, ou ils ne savaient pas qu'ils vivaient une belle époque.
Alors cette belle époque, est-ce que de 1900, au sortir de la Grande Guerre, oui, est-ce que les contemporains ont eu conscience de vivre un temps singulier, c'est le début de votre investigation.
Oui, bien sûr, parce que je voulais savoir effectivement, alors on sait très bien que l'expression Belle Époque est née plus tard, mais je voulais savoir si au moins les contemporains avaient eu le sentiment d'une singularité de leur temps, d'une spécificité de leur temps.
Vous êtes mis donc en chasse des textes on parlait de l'époque spécifique.
Alors, je crois au bout du compte qu'il n'y a pas vraiment eu, entre 1900 et 1914, de conscience particulière d'un temps. Il y a des moments, effectivement. Mais je pense que sans doute la seule chose qu'on peut assurer, c'est que l'année 1900, a été vécue par les contemporains comme quelque chose d'important, peut-être essentiellement parce qu'ils ont eu conscience de rentrer dans un siècle nouveau. C'est peut-être la première fois, c'est sans doute même la première fois, que des gens pensent effectivement entrer dans un siècle qu'on va appeler 20e siècle.
Non, on trouve déjà dans la princesse Palatine, dans ses lettres au début du 18e siècle, 1700, l'interrogation sur ce que cela veut dire. Oui. Outre la question de savoir si c'est 1700 ou 1701,
oui, 1900 ou 1901. Il y a un gros débat en 1900. Mais enfin, c'est très rare quand même ce sentiment. Là, il est collectif. Vous voyez, au moment de l'exposition universelle, le pays se dit, voilà, nous entrons dans le nouveau siècle, avec une conscience collective assez forte. Ça, je crois que ce moment-là, cette conscience-là a été importante.
D'ailleurs, il y a eu l'expression « fin de siècle » juste avant.
Bien sûr, juste avant.
Hein, sentiment de décadence.
Qui a été très partagé également dans les années fin 80, début 90. Donc là, vraiment, cette idée d'un basculement, du changement de siècle, ça c'est important. Pour le reste, beau, pas beau, précis, des caractères particuliers, des traits particuliers, tout ça, me semble-t-il, est venu après.
Nous avons de la peine, effectivement, à penser qu'on ne savait pas en 1913 qu'il restait juste une année avant la catastrophe. Mmh. C'est un combat permanent que l'historien doit avoir avec la téléologie.
Bien sûr.
Connaître la fin de l'histoire.
Il y a une petite formule d'Alain Corbin que j'aime beaucoup. Il dit « L'important pour nous, c'est de faire comme si nous ne connaissions pas la fin de l'histoire. Hein, » Autrement, l'anachronisme... péché majeur de l'historien, selon Lucien Febvre et d'autres, l'anachronisme nous guette en permanence. Mais c'est très dur, hein, parce qu'on est aussi de notre temps.
C'est-à-dire restituer à chaque moment le foisonnement des possibles qui n'ont pas eu lieu.
Voilà, et puis des représentations que les gens se faisaient de leur temps. Comment nos grands-parents et arrière-grands-parents habitaient-ils leur temps? C'est aussi une des questions que j'ai voulu résoudre dans ce livre.
Quoi qu'il en soit, 1914, le début du conflit, même si personne n'imagine qu'il va durer si longtemps et être aussi dramatique, est forcément éprouvé par les contemporains comme une date importante. Et nous avons un témoin majeur qui est Guillaume Apollinaire, dans un texte qui est de 1918.
La petite Otto.
La petite Otto, vous m'avez vu venir, il est ici lu par Jean-Pierre Marielle en 1967.
Le 31 du mois d'août 1914. Je partis de Deauville un peu avant minuit dans la petite auto de Rouvert. Avec son chauffeur, nous étions trois. Nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe, les aigles quittaient leur aire attendant le soleil, les poissons voraces montaient des abîmes, les peuples accouraient pour se connaître à fond. Les morts tremblaient de peur dans leur sombre demeure. Les chiens aboyaient vers là-bas où étaient les frontières. Je m'en allais, portant en moi toutes ces armées qui se battaient. Je les sentais monter en moi et s'étaler les contrées où elles serpentaient, avec les forêts, les villages heureux de la Belgique, Francorchamps avec l'eau rouge, et les Pouons, région par où se font toujours les invasions. Artères ferroviaires où ceux qui s'en allaient mourir saluaient encore une fois la vie colorée. Océans profonds remuaient les monstres dans les vieilles carcasses naufragées. Hauteurs inimaginables où l'homme combat plus haut que l'aigle ne plane. L'homme y combat contre l'homme et descend tout à coup comme une étoile filante. Je sentais en moi des êtres neufs pleins de dextérité bâtir et aussi agencer un univers nouveau. Un marchand d'une opulence inouïe et d'une taille prodigieuse disposait un étalage extraordinaire et des bergers gigantesques menaient de grands troupeaux muets qui broutaient les paroles et contre lesquels aboyaient tous les chiens sur la route. Je n'oublierai jamais ce voyage nocturne où nul de nous ne dit un mot. Ô départ sombre où mouraient nos trois phares, ô nuit tendre d'avant la guerre, ô village où se hâtaient les maréchaux ferrants, rappelés entre minuit et une heure du matin, vers Lisieux, la Très Bleue, ou bien Versailles d'or. Et trois fois nous nous arrêtâmes pour changer un pneu qui avait éclaté. Et quand, après avoir passé l'après-midi par Fontainebleau, nous arrivâmes à Paris au moment où l'on affichait la mobilisation, nous comprîmes, mon camarade et moi, que la petite auto nous avait conduits dans une époque nouvelle. Et bien qu'étant déjà tous deux des hommes mûrs, nous venions cependant de naître.
Il y a la conscience, bien sûr, mais 4 ans plus tard, de ce qu'a représenté cette coupure. En contraste d'ailleurs avec un des traits de la période antérieure, c'est un certain pacifisme, ou plus exactement le sentiment chez beaucoup qu'on est entré dans une période de paix. Le grand journaliste Hearst, américain, disait que le XXe siècle verrait selon toute probabilité la fin des guerres. Et Berthelot, le Marcellin Berthelot, qui a été ensuite avec sa femme au Panthéon, le chimiste, pensait que la chimie allait également, pour toutes sortes de raisons, assurer que les hommes en auraient fini avec la guerre.
Ouais, c'est le grand moment, effectivement, du rêve pacifiste, des grands congrès internationaux pour la paix, ou de l'internationalisme socialiste, qui voulait la paix également. Mais effectivement, on croyait au progrès, la notion de progrès. Sans doute, on parlait tout à l'heure des traits marquants de l'époque, sans doute la croyance au progrès. Et la croyance dans un progrès qui n'a pas de mauvais côté, contrairement au nôtre, est sans doute un des traits importants. Mais je reviens une minute à Apollinaire et à Strébotet. Ils se trompent d'un mois quand même, le 31 du mois d'août. Alors, est-ce qu'ils se trompent d'un mois sur la mobilisation, ou est-ce qu'ils reprennent la chanson célèbre? À mon avis, quelqu'un comme Apollinaire ne s'est pas trompé. C'est un petit clin d'œil à la chanson.
Alors, venons-en maintenant à l'invention de 1900. Comment on a développé cette idée de la belle époque? On est frappé du fait que dans les années 20, il n'en a guère question encore.
Ben oui, contrairement à tout ce que l'historiographie a écrit, et moi-même, dans un article antérieur, on lit ça dans tous les bouquins, hein, c'est au lendemain de la guerre. Et en fait, non, au lendemain de la guerre, il n'y a pas ce regard nostalgique et rétrospectif. Je pense qu'au lendemain de la guerre, dans les années 20, nos ancêtres avaient d'autres chats à fouetter. Ils avaient envie de reconstruire, ils regardaient devant, pas derrière. Ils avaient envie de s'amuser, d'aller danser les nouvelles danses que les Américains avaient importé en France depuis le Charleston, le Foxtrot, le One Step ou le Tango qui était... Ils allaient voir les films nouveaux, ils n'avaient pas tellement le regard braqué dans le rétroviseur.
Hein. C'est encore un chrononyme avec les années folles.
Les folles, ah oui, et celui-là, il faudrait l'élucider. Hein. Donc, contrairement à ce qu'on a beaucoup écrit, et je me mets dans l'eau, hein, je bats ma coulpe avec les autres, les années 20 n'ont pas été vraiment nostalgiques. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on interroge les gens un petit peu, c'était une chose que j'ai fait avec mes étudiants il y a quelques années.
Un micro-trottoir, on dirait. C'est rare que dans l'historiographie qu'on se procède à des micro-trottoirs.
Ça n'a évidemment aucune valeur scientifique, ça avait juste effectivement une petite... Eh bien, les gens dans la rue se trompent, ils confondent souvent belle époque et années 20, années folles, parce qu'on retrouve effectivement un certain nombre de traits, et notamment dans le côté un peu joie de vivre, ou très très fête. Donc, les années 20, non. Les années 20 n'ont pas eu ce regard, n'ont pas inventé, en quelque sorte, la belle époque, parce que le projet était autre. Le projet était d'aller de reconstruire et de penser au futur.
On a d'ailleurs un livre encore en 1930 qui a beaucoup frappé les contemporains, le livre de Paul Morand, qui est très à la mode, romancier, il a un grand succès avec Ouvert la nuit. Quelques années plus tôt, en 1931, il publie un livre qui s'appelle 1900, et qui n'est pas du tout un grand cri d'amour pour cette période-là.
Non, qui est même le contraire, hein. C'est une charge féroce contre l'époque de ses parents, hein. C'est un peu ça. Pour lui, en 1931, 1900, c'est une période snob, c'est la fêterie, c'est les noms propres ridicules, c'est une littérature qu'il estime affreuse, on n'a jamais aussi mal écrit, etc. Mais en même temps, ce texte est important parce que c'est peut-être le premier texte, d'abord, qui va nommer la période. 1900, c'est pas la belle époque, mais c'est un chrononyme quand même, il le nomme. Et puis, il fait plus que le nommer. Il identifie une séquence, 1900-1914, parce que quand il parle de 1900, il va un peu plus loin. Il identifie une séquence et puis il la dote d'un certain nombre de caractères, d'un certain nombre de traits, et d'une certaine manière, à son corps défendant, parce que lui est là pour critiquer, il est un des premiers à faire braquer le regard sur le début du siècle, et on est en 1931.
Tout en marquant que rien ne peut être trouvé d'utile dans une époque aussi navrante. Il écrit 1900, cet âge d'or se trompe avec impudence, son monocle l'aveugle. Il ne croit à rien et il gobe tout. Il prend Flers pour Aristophane, Robert de Flers, Flers et Caillavet, Rochefort pour Champfort et le Palais de Glace pour le Pôle Nord.
Ouais, ça c'est très drôle. Oui. Alors, plus tard, Morand reviendra dans un interview télévisé qu'il fait après la Seconde Guerre mondiale. Le présentateur lui dit, mais alors pourquoi et il dit, oh, j'étais un jeune idiot. Hein, je voulais faire du stupide 1900 comme on avait fait du stupide 19e siècle. J'en voulais à mes parents, etc. Je le rééditerai pas.
Oui, c'est un dialogue à la télévision avec Roger Stéphane.
Absolument. Ouais.
Et simplement, la différence, c'est qu'il a vieilli. Il n'a plus 44 ans comme en 1930, mais nettement plus âgé, et que l'on retrouve là quelque chose qui est constamment présent dans vos analyses, Dominique Khalifa, c'est-à-dire la nostalgie du passé chez les vieillards. Il y a un film de René Clair, Belle de Nuit qui montre toute une série de vieillards qui chaque fois expliquent que quand ils avaient 20 ans, c'était rudement mieux. C'était mieux avant.
Bien sûr. Mais en revanche, Le Morant a quand même eu un effet extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dénigre tellement 1900 qu'il suscite une réaction extrêmement forte de toute une série d'artistes, d'intellectuels, de peintres, de musiciens qui vont dire « Mais non, 1900, c'était très bien. » Vous voyez, et contrairement à son désir, son bouquin, ce 1900 si dur, cette charge si brutale contre cette période-là, a un effet extrêmement inverse. C'est-à-dire que ça va commencer à faire sourdre en quelque sorte le regard nostalgique sur une période qui finalement était beaucoup moins stupide que Morant ne voulait bien le dire.
Donc c'est nettement un tournant en 1930.
Pour moi c'est le tournant, c'est à partir du moment où l'imaginaire 1900, la préhistoire de la Belle Époque, si on veut dire, est en train de se constituer. Et le contexte explique beaucoup. Il y a d'abord effectivement l'âge de ces personnes qui commencent effectivement à jeter un coup d'œil un petit peu larmoyant sur leur passé. Et puis il y a aussi le fait que dans les années 30, on revient dans une période de crise, on revient dans une période difficile politiquement, et notamment à partir de 33-34, lorsque la menace d'une nouvelle guerre est en train d'émerger, et la menace d'une nouvelle guerre qui fait rétrospectivement penser à la menace de cette guerre qu'on n'avait pas vu venir en 12-13. Vous voyez.
Très clairement, l'angoisse nourrit la nostalgie.
Absolument.
Et là, on est vraiment, Dominique Khalifa, dans la préhistoire de l'expression Belle Époque. Beaucoup plus tardive, vous le montrez qu'on le croit souvent.
Alors, elle n'apparaît pas encore dans ces années 30. On va la voir apparaître à la fin de la décennie. Mais les constituants commencent à se mettre en marche. Tout un certain nombre de lieux spécifiques commencent à être investis d'une très très forte identité. Bien sûr, Montmartre, qu'on commence déjà à l'époque à dire « Ah ben Montmartre n'est plus Montmartre, c'est un lieu à touristes. » Le Moulin Rouge, qui va être réinvesti effectivement de toute une série de croyances, sentiments, d'espères. Et puis...
Fréhel que nous entendons.
Fréhel, on voit revenir. Elle avait complètement disparu dans les années 20, emportée par la drogue, l'alcool, etc. Et elle remonte sur scène. En 1935 ou 36, je ne me souviens plus exactement, elle fait une grande tournée habillée en pierreuse. Alors, la pierreuse, c'est la prostituée de bas étage de l'époque des Apaches. C'est aussi le moment où elle a commencé à chanter sur les fortifications qui ont disparu. Tous les éléments, effectivement, principalement portés par la chanson, c'est important à dire, il y a une dimension musicale, chansonnière à la Belle Époque, mais également portée par le cinéma. La Dame de chez Maxime, le film de Korda, est tourné, si je ne me trompe pas, en 31. Et là aussi, on fait ressurgir une pièce très célèbre de 1900, ou de 99, je n'ai plus la date en tête.
Maxime et... Montmartre, deux lieux.
Montmartre, le Moulin Rouge. Hein, on voit effectivement les imaginaires se cristalliser, se focaliser sur des lieux spécifiques qui auraient été des lieux 1900.
Vous m'étonnez un peu, je dois dire, en me disant que l'expression « la Belle Époque » n'existait pas encore dans les années 30, parce qu'il existe cette opérette qui s'appelait « La Poule » d'Henri Duvernoy, André Barde et Henri Christinet, où l'on trouve cette chanson qui s'appelle « Ah, la Belle Époque », elle est interprétée ici par Robert Burnier en 1935. Je vous demanderai après d'en faire très savamment l'analyse.
Pourquoi de nos jours montrer tant de scrupules, car c'est ridicule par le temps qui court. M'affirmer que ce n'est pas la mode, moi j'ai la méthode, c'est empirimé. À la belle époque du temps d'autrefois, et quand on s'en moque, on a bien dans la foi. On était honnête instinctivement, sans paraître bête, c'était vraiment charmant. Les jeunes filles, c'est très curieux, baissaient encore les yeux. Et les hommes, sans hésiter, savaient les respecter. Et sans équivoque, on jurait sa foi à la belle époque du bon temps d'autrefois. Thank you. refait l'époque du temps d'autrefois. C'était moins loufoque et beaucoup plus courtois. C'est à la famille et presque en tremblant qu'on demandait la fille en mettant des gants blancs. Maintenant c'est moins élégant, on ne prend plus du tout de gants. On se dit, tu me plais, je te plais, goûtons le bonheur complet. On stocke, on se détoque dès la première fois. À la belle époque, c'était mieux autrefois.
À la belle époque, c'était mieux autrefois, ouais. Dominique Khalifa. Là, on est loin de Paul Morand.
On est loin de Paul Morand. Alors là, on est vraiment effectivement dans ce qu'on appelait tout à l'heure la préhistoire. Bien sûr, l'expression est attestée à la belle époque. Et elle m'importe évidemment cette expression, la poule. D'autant que Henri Christinet est quand même quelqu'un qui a beaucoup compté aussi pour la musique et les chansons et les opérettes des années 1900. Hein, donc il est là un peu à la fin de sa carrière. Mais en même temps, quand on écoute bien la chanson et la pièce, on s'aperçoit effectivement que l'expression n'est pas exactement rapportée à une séquence historique précise. C'est le bon vieux temps.
Eh bien voilà une belle défense d'expliquer que le mot n'est pas encore attribué à ce moment précis.
Il est dans l'air du temps hein, à cette époque, comme il sera dans l'air du temps dans le film d'Abel Gance, Paradis perdu, qui est tourné 3 ans plus tard. Mais si vous voulez, on n'a pas encore fait le lien entre cet imaginaire nostalgique du bon vieux temps, comme le dit la chanson du moment où on allait demander la main d'une jeune fille en mettant des gants blancs, mais ça pourrait être aussi bien les années 80, les années 90, 1900, voire le Second Empire. Hein. Et puis, la séquence que Morand avait identifiée, la séquence 1900. Et donc, il faut attendre le moment où il va y avoir, en quelque sorte, convergence et recouvrement de « À la belle époque » et de 1900. Et ce moment, c'est un tout petit peu plus tard.
C'est-à-dire pratiquement Vichy, déjà.
Bah, c'est au début de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, au début de l'occupation. C'est une émission de radio qui se fait sur Radio Paris, hein, la station créée par l'occupant.
André Aléo.
André Aléo était...
À la belle époque.
À la belle époque. Fin octobre 1940. Et la caractéristique de l'émission d'Aléo, c'est qu'il ne se contente pas de dire « à la belle époque », point d'exclamation, en reprenant de toute évidence la chanson de La Poule, mais il l'accompagne du sous-titre « Sketchs musicaux des années 1900 ». Et là, on a effectivement le chrononyme, pour reprendre le mot savant que nous utilisons tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un nom du temps qui est associé effectivement à une délimitation chronologique extrêmement précise. C'est 1900, la belle époque, c'est 1900. C'est Aléo qui, le premier, met le point et constitue en quelque sorte l'identité propre de l'expression.
Avec un grand succès, d'ailleurs, l'émission est diffusée à un moment qui est, à l'époque, le meilleur des moments, c'est-à-dire l'heure du dîner.
Absolument.
De 45 minutes, entre d'abord à 19h15, puis à 20h, avec deux séquences bien distinctes. D'abord, l'animateur évoque un aspect pittoresque des années 1900. Et ensuite, l'orchestre, dirigé par Victor Pascal, enchaîne sur quelques-uns des grands succès du temps. Les Bas Noirs, Fascination, Viens Poupoule, aux Carolines, etc. Et j'ai relevé dans le journal magazine consacré à la radio, 1942, Les Ondes, cet article élogieux. Voici la belle époque, tous les refrains gais de notre jeunesse, tous les airs charmants qui nous font sourire avec indulgence ou nous font battre le cœur un peu plus vite, vont sortir de la boîte magique, envahir la chambre, la rue, les boulevards, retrouvant intacte leur fraîcheur d'antan. Voici la belle époque. Avec adresse et avec goût, André Aléo nous fabrique du rêve. Effectivement, on est en plein dans le rêve. Il nous entraîne tour à tour au bord de la Marne, à Nogent. Nous n'avons pas encore parlé de la banlieue comme un des lieux possibles, les guinguettes de la nostalgie 1900. Au bord de la Marne, à Nogent, à une distribution de prix en province, à l'Eldorado, à la campagne, à l'office, la trouvaille est toujours heureuse, le prétexte jamais banal. Et par la volonté de son imagination, nous nous trouvons tout naturellement en 1901 à la Scala ou en 1905 sur les boulevards. Toute une génération d'amateurs de la radio, il doit en demeurer encore parmi nos auditeurs, j'en suis sûr, je les salue spécifiquement, ont entendu Aléo et ont du même coup imprimé dans leur mémoire et dans leur nostalgie cette idée de la belle époque.
Oui. Mais en même temps, on est en 1940, 41, 42, 43. L'émission dure assez longtemps, durant toute la guerre. Et ça peut aujourd'hui, rétrospectivement, nous apparaître un petit peu tragique que d'avoir célébré la belle époque au moment où la France était occupée, au moment où l'Allemagne nazie imposait son joug sur l'Europe avec toutes les horreurs que l'on sait.
Mais justement, recherche d'un contraste.
Bien sûr, mais en même temps, Léo, il a des ennuis en 44, en 45, hein, on l'accuse en quelque sorte d'avoir gagné de l'argent en célébrant le bon temps à un moment où effectivement il était plus si bon que ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors il se défend en disant oui, mais bon, j'invitais en quelque sorte le pays à se préparer au retour du bon temps.
Hein. Le moral des Français ressort pour les bonheurs futurs, voilà, et pour la liberté future.
Il donne à la commission de l'épuration qu'il écoute, il donne même une chanson qui s'appelait À la belle époque, qu'il avait composée. Il souligne en rouge, hein, j'ai retrouvé la pièce aux archives, il souligne en rouge les termes dans lesquels effectivement il veut dire, vous voyez, en même temps, j'appelais le pays à anticiper le retour du bon temps. Mais ça n'a pas convaincu la commission d'épuration.
D'autant plus que Aléo rejoignait en fait l'idée caricaturale que les nazis pouvaient avoir de la France, qui s'était déjà exprimée avant la guerre dans des livres comme ceux de Cibourg, par exemple, Dieu est-il français, un lieu de bonheur artificiel où les guerriers iront volontiers reposer leur énergie.
Absolument. Aléo, d'ailleurs, pas le seul. Hein. Les théâtres, les cafés-concerts sont pleins de spectacles Belle Époque. D'ailleurs, l'émission de Aléo va également devenir une revue de music hall qui va passer à Bobino, puis au Palace, puis en 43 et en 44. Mais vous avez parfaitement raison. Je crois que cette France-là, c'est-à-dire la France des flonflons et des froufrous, pour aller vite, correspondait exactement à ce que les idéologues nazis attendaient de la France dans l'ordre nouveau nazi. Hein, nous, on devait être là pour les productions de luxe, pour la production agricole, et puis pour le gay Paris, des petites femmes, exactement ce que les soldats allemands qui venaient en permission à Paris de façon assez massive allaient voir au spectacle, au Moulin Rouge, à Bobino. C'était en quelque sorte donner à l'occupant les stéréotypes et les clichés qu'il attendait de la France. Ce qu'on a d'ailleurs reproché par la suite à Aléo, tout en lui reprochant également qu'il a gagné beaucoup d'argent entre 1940 et 1944 en faisant son émission sur Radio Paris et en peuplant les cafés-concerts de la rive gauche comme de la rive droite.
Où il devait y avoir d'ailleurs beaucoup d'uniformes allemands.
Absolument, absolument.
Qui venaient s'y divertir. Flonflon et froufrou. Je regrette, j'aurais pu donner ce titre à notre émission. Encore qu'il aurait été un peu réducteur.
Oui,
non,
il correspond à une époque, il correspond à un moment de compréhension, d'émergence, de représentation de la belle époque. Ça changera par la suite. Mais effectivement, si on se situe là, en 1936, 40, voire même dans les années 50, qui vont être vraiment le cœur, le moment d'explosion et d'apothéose de l'imaginaire 1900, c'est ça, c'est le vaudeville, c'est le boulevard, c'est la chanson, c'est une certaine forme de gaieté française, d'esprit français que l'on veut effectivement valoriser dans un moment où tout va mal quand même, et dans un moment où le rayonnement d'une France joyeuse, d'une France dominante, d'une France à la vie culturelle riche et merveilleuse est pour le moins appauvrie.
Oui, puisque nous nous intéressons dans cette émission à l'évolution, à l'apparition puis à l'évolution de l'idée de Belle Époque, Dominique Khalifa, il faut en effet braquer l'attention sur ces années 50, oui. 50 et 60 débutantes, où il y a une véritable explosion de l'imaginaire Belle Époque, après la libération.
Ça m'a beaucoup étonné au départ, parce que j'avais le sentiment, a priori, que comme la Belle Époque était née en quelque sorte dans la complaisance avec l'occupant nazi, on aurait dû la congédier. On aurait dû la congédier en 1944-45. Or, c'est pas du tout ce qui se passe. La libération, la quatrième et puis la quatrième république vont complètement s'approprier cet imaginaire 1900 et vont effectivement en faire un des thèmes forts de la renaissance d'une grande France, d'une France puissante, d'une France retrouvant son rang à l'international tant sur le plan politique que sur le plan culturel. Effectivement, le grand film de Nicole Védresse, Paris 1900,
qui date de la fin des années
47, 40. Hein, il est tourné en 46, il est présenté au Festival de Cannes en 47 et il gagne le prix Louis de Luc en 47, qui est le premier grand documentaire moderne en quelque sorte. Alain Resnais est l'assistant de Nicole Védresse dans le film. Ce très beau film qui est en quelque sorte un assemblage, un montage de 700 documents tournés, documents cinématographiques, de fiction d'ailleurs comme d'actualité, tournés entre 1900 et 1914, c'est un immense succès en 47 et ça va continuer dans les années 50. Hein.
Nicole Védresse était une grande dame qui est d'ailleurs disparue prématurément, qui a longtemps représenté la culture avec Max-Paul Fouché à la télévision.
Journaliste, romancière et d'une certaine manière, en quelque sorte, inventeur du documentaire historique moderne avec ce Paris 1900.
C'est durant ces années 1950 que le général de Gaulle rédige ses mémoires de guerre.
Absolument.
Avec ses premières pages si célèbres qui font assez écho à cette idée de la belle époque. Puisqu'il écrit « Rien ne me faisait plus d'effet que la manifestation de nos réussites nationales. Enthousiasme du peuple au passage du tsar de Russie, revue de Longchamp, merveille de l'exposition, 1900, premier vol de nos aviateurs. Rien ne m'attristait plus profondément que nos faiblesses et nos erreurs révélées à mon enfance par les visages et les propos. Abandon de Fashoda, affaire Dreyfus, conflits sociaux, discorde religieuse. »
D'une certaine manière, je crois que c'est très clair ce que ce texte dit et ce que dit l'explosion de 1900 dans les années 50. En dépit des efforts de Gaulle, cette France n'est plus une grande puissance, ou du moins elle peine à retrouver son rang de grande puissance sur le plan politique, sur le plan économique. Tout ça. N'oublions pas qu'on est aussi au moment où l'Empire est en train de se déliter complètement. On n'en parle d'ailleurs pas beaucoup dans l'imaginaire Belle Époque, parce qu'on préfère penser la France triomphante comme deuxième empire colonial du monde. Et sur le plan culturel, ça je crois que c'est quand même très important. La France des années 50, c'est quand même une France qui a perdu son rôle de capitale culturelle du monde au profit de New York. Là, on peut comprendre aussi que tous ces artistes venus de l'Europe entière, venus d'Espagne, venus d'Allemagne, venus de Russie, qui avaient fait la force de la culture, de la peinture, de la littérature française 1900-1914, leur traitement a été dur, hein, 40-44, hein, la plupart d'entre eux ont été internés, livrés aux nazis, ou ont fui effectivement à New York. Donc la France a perdu en quelque sorte ce rang, même si elle a encore de beaux restes, mais si vous voulez, elle a perdu ce rôle de capitale cosmopolite culturelle qu'elle avait en 1900. Et donc en 1950 ou en 55, célébrer 1900, c'est en quelque sorte chercher une valeur refuge pour essayer de retremper en quelque sorte le caractère national dans la belle époque de son histoire.
C'est pour ça d'ailleurs que le regard devient plus complexe sur ces années-là et qu'on attache beaucoup plus de prix à la diversité de la culture.
Absolument.
Et à la modernité de la musique, de la peinture, que ce n'aurait été le cas naturellement à l'époque de Vichy ou dans les années 30.
Oui, on va notamment mettre un focus incroyable sur 1913, l'année de toutes les modernités. 1913, l'année de Proust, 1913, l'année des ballets russes, 1913, l'année du Sacre du Printemps, 1913, l'année de Duchamp. Mais évidemment, en 1913, tout ça était complètement, extrêmement marginal. Hein, les cubistes ou les futuristes n'étaient pas, enfin bon, c'était un tout petit monde. Mais ce qui se passe, c'est qu'effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 45 et au-delà, ces avant-gardes-là, ce qu'on appelle ces avant-gardes historiques, vont enfin sortir de la situation de domination culturelle dans laquelle elles ont vécu durant le premier XXe siècle, pour aller vite. Et en plus, Vichy les avait complètement mis de côté. Et donc, elles vont triompher. Hein, le surréalisme, Kandinsky, les grandes Picasso, les grandes gloires de la scène culturelle, picturale, musicale, artistique, littéraire française, qui triomphent dans les années 50, ce sont les individus qui avaient 20 ans et qui se battaient pour, qui jouaient des coudes pour triompher en 1910 ou en 1912. Et là, ils triomphent et donc ils peuvent réécrire en quelque sorte leur histoire en valorisant fondamentalement ce moment de leur émergence qui a été à l'époque relativement peu. Hein, oui. Donc, c'est toujours une réécriture, bien sûr, mais c'est ça aussi l'histoire, c'est toujours une réécriture.
C'est le moment aussi où les acteurs de ces années-là vieillissent beaucoup et où fonctionne par conséquent ce phénomène que nous évoquions tout à l'heure.
Oui. Les mémoires.
La nostalgie, les mémoires.
Les souvenirs.
Et la radio, naturellement, est présente pour recueillir ces souvens. Je vais vous faire entendre, Dominique Khalifa, un extrait de la Tribune de Paris, notre chère émission, Les hommes, les idées, les événements à l'ordre du jour. Une émission consacrée à la belle époque, avec des souvenirs évoqués par Cléo de Mérode, par Kurnonski, le célèbre gastronome, et par Fernand Gregg, un poète qui a eu aussi sonneur de notoriété. C'est une émission qui remonte au 17 mars 1948.
Eh bien, on a pris l'habitude, lorsqu'il est question dans une conversation de 1900, de s'exclamer immédiatement « la belle époque », et l'un d'entre vous, et c'est Fernand Gregg, l'a même qualifié de « l'âge d'or ». Aussi, nous vous avons réunis ce soir pour vous demander de nous dire si 1900, c'était vraiment le bon temps. C'est d'abord à Cléo de Mérode que nous allons passer la parole.
1900 ? Quelle belle et bonne époque ! Et la vie était si agréable, si facile. Et quelle douce quiétude on avait. Et cette franche gaieté que rien n'obscurcissait, tout le monde était de bonne humeur. Et l'on s'amusait d'un rien. Et vous rappelez, mais quelle pléiade d'artistes incomparables on avait. Sarah Bernard, Mounet Sully, Lucien Guitry.
Kurnanski demande la parole, je crois, je vous en prie.
Mais je crois que nous avons surtout vécu les hommes de mon âge, l'époque des grands tragédiens, des grands comédiens et des grands toréadors.
Ah, vous rappelez-vous les salons de peinture, le moment du vernissage, la foule.
Mais le déjeuner chez le doyen.
On se montrait
les grands peintres.
Fernand Gray.
On se montrait les grands peintres, les illustres de l'époque.
Oui.
Et puis vous vous rappelez pas des discussions très passionnées sur les productions de Rodin?
Ah, oui,
c'est
un peu plus tard.
Son penseur, son Balzac, si, on l'avait fait des choses là-dessus. Vous vous rappelez ?
En somme, pour vous, la question ne fait pas de doute. 1900, c'était vraiment la belle époque.
Nous ne le savions pas que nous étions si heureux. Ce n'est que maintenant que nous nous rendons compte que les conditions de la vie étaient plus heureuses et plus favorables que maintenant. À ce moment-là, c'était le normal. C'était la vie.
Alors, Dominique Califat.
C'est émouvant d'écouter Claude Mérode, vieille dame comme ça. Claude Mérode, c'est quand même la plus belle femme du monde, hein. Je pense qu'on peut dire ça. Elle a été photographiée, c'est une icône, si vous voulez, de ces années 1900. C'est une danseuse, toujours très faussement accusée d'avoir été une grande cocotte, car Claude Mérode n'a jamais été une grande cocotte comme Liane de Pougy ou Caroline Otero, la belle Otero.
Vous dites accusée comme vous êtes moraliste.
Mais parce qu'elle s'en est défendue elle-même. Vous savez, tout ça vient du fait que le roi de Belgique, Léopold II, est tombé amoureux follement de Claude Mérode, et donc la presse, qui aimait beaucoup ça à l'époque, a brodé beaucoup sur cette dame, à la belle époque,
non, parce
qui a
que
toujours voulu défendre absolument
sa
vertu 1900. Mais c'était une femme magnifique, photographiée, sculptée par Falguière, et qui est sans doute une des icônes visuelles les plus fortes de cette période. Et là, ce sont des vieilles personnes qui ressassent un peu leurs souvenirs. Ce qui est très intéressant en utilisant de façon extrêmement fréquente, récurrente, cette expression de belle époque, qui est relativement neuve à l'époque, ça fait quelques années qu'elle a surgi. Ce que je trouve très révélateur dans les propos qu'on a entendus, c'est de les voir parler essentiellement de vie culturelle, de peinture, de théâtre, le théâtre qui a quand même été la grande activité de 1900, des acteurs célèbres, des actrices célèbres, Sarah Bernard, etc. Et puis la gastronomie, la recette du saumon. Donc, et ça c'est très important parce que un des constituants les plus forts de l'imaginaire 1900, c'est précisément la vie culturelle, la production culturelle, avoir le sentiment effectivement que toute activité confondue, littérature, théâtre, cinéma que nous inventons quand même, nous Français, à cette période, peinture, musique, chorégraphie, ballet, etc., etc. La France invente la modernité. On c'est quelque chose qui est très fort. Et cette idée-là est vraiment constitutive d'une large part de la puissance de l'imaginaire 1900.
Un imaginaire qui est porté, nous le disions, par la chanson. Vous en avez entendu un exemple, et par le cinéma. C'est très très important.
Alors,
dans ces années-là, il y a un foisonnement de films sur les années 1900.
C'est extraordinaire. Vraiment, ça a été une de mes découvertes lorsque j'ai travaillé pour ce livre, de voir le nombre de films français tournés. Je crois que j'ai comptabilisé environ 60 films français tournés entre 1945 et 1960 qui mettaient en scène 1900.
Alors, vous les avez tous vus ?
Je ne les ai pas tous vus, j'en ai vu beaucoup. Ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup ne sont pas très bons. Hein. Alors, on va citer quelques chefs-d'œuvre.
Citez les bons.
Casque d'or de Becker, ou French Cancan de Renoir ou quelques autres comme ça qui sont très bons. Mais la plupart de ces films sont de simples reprises de vaudeville. Vaudeville à caleçon, comme on disait à l'époque, des années 1900. C'est-à-dire des films faits sans grand moyen, avec quelques plaisanteries, quelques starlettes, etc. C'est pas très bon. D'ailleurs, ça irrite beaucoup le milieu cinématographique de la fin des années 50, qui est en train de se transformer hein, à ce moment-là, et qui voit apparaître, et qui dit, ça c'est du film à la papa, c'est du film ridicule. Si, les Guitry sont bien quand même, hein, les Guitry sont excellents, les films de Sacha Guitry qui datent de cette époque.
Et d'ailleurs, le cahier du cinéma, il y a un contre-cinéma avec, par exemple, Jules et Jim de Truffaut.
Jules et Jim, c'est 62,
oui,
j'adore ce film, qui pour moi marque la fin. Si vous voulez, Jules et Jim, ça serait en quelque sorte avec le voleur de Louis Malle.
Mal aussi.
Mais Jules et Jim, c'est me semble-t-il le film qui marque la fin de cet imaginaire facile cinématographique Belle Époque, parce que c'est évidemment un film Belle Époque, Jules et Jim, hein, l'action débute en 1912, mais c'est un contre-film de la Belle Époque, parce que ce trio amoureux, il est à la Belle Époque, on peut avoir des amants, c'est possible, ça c'est très... Des amants dans le placard ou des amants sous le lit, ça fait partie...
Deux à la fois,
non, c'est pas... Et puis, cette amitié franco-allemande, là, non, elle n'est pas possible non plus dans l'imaginaire Belle Époque. Elle est hérétique, d'une certaine manière. Donc, pour moi, le film de Truffaut, c'est vraiment le moment qui marque la fin et qui va nous faire entrer, effectivement, sur une autre période où on ne va pas du tout congédier la Belle Époque, mais elle va prendre des traits totalement différents.
Nous évoquons le film de Louis Malle. Il est intéressant aussi parce qu'il met en scène... un livre de Darien, ouais. Georges Darien, qui avait été un des plus sévères critiques de ces années-là. En 1900, il écrivait dans un pamphlet furieux et corrosif, La Belle France, que ce pays n'était que mensonge, bassesse et servitude partout, lâcheté, abrutissement, veulerie d'une société ignoble où prospère seule la hideuse bourgeoisie, la pieuvre militaire et le vampire catholique. Si je cite Darien, c'est parce qu'on va s'apercevoir qu'à partir des années 60 ou 70, l'imaginaire de la Belle Époque est puissamment retravaillé et en particulier, on va évoquer tout ce que cette période en réalité, derrière les images d'Épinal, ce que cette période a pu porter de brutalité, de dureté, la seconde révolution industrielle, à l'égard en particulier de tous ceux qui étaient... dominer les pauvres, les ouvriers. Pour être juste, je vais vous faire entendre Saint-Granier qui en parle dans une émission qui s'appelait « Ma jeunesse folle » d'Edith Lanzac le 29 juillet 1967. Saint-Granier, c'est une grande figure de la radio dans ces années-là. Il avait une chronique fameuse. « Bonjour mes chers auditeurs, bonjour !» Écoutons Saint-Granier.
La Belle Époque était une époque très dure pour les pauvres gens.
Oui.
Épouvantablement dure. D'abord, les travailleurs ne jouissaient d'aucune considération. Une malheureuse domestique, puisqu'il faut l'appeler comme on l'appelait à l'époque, ce n'étaient pas encore des gens de maison, une malheureuse domestique était logée dans une chambre sans feu, inconfortable naturellement, le plus souvent sans eau, avec une cuvette et un broc pour se laver. Voyez dans quelle situation elle se trouvait au point de vue logement.
Et avec des salaires beaucoup moins importants.
Au sixième étage, des salaires de misère, des salaires de misère incomparables avec les salaires d'aujourd'hui. Les bouchers, par exemple, c'était affreux. Les petits apprentis bouchers commençaient le matin à 5h30, 6h. Pas de vacances, pas de week-end. Les bouchers sortaient une fois par an. Pas d'espoir d'un dimanche, pas d'espoir d'une sortie, rien, et traité avec une dureté effroyable. Je parlais tout à l'heure d'une domestique. Eh bien, quand une domestique avait eu le malheur de parler dans la rue pendant un moment avec le valet de chambre d'en face, ou avec un militaire, ou avec un pompier, j'amène cette note un peu gaie, eh bien, elle était renvoyée. Et elle avait un mauvais certificat. Quand elle entrait dans une maison, on lui disait « Comment vous appelez-vous » Elle disait « Je m'appelle Marie. » « Alors non, nous avons notre tante Marie, alors vous vous appellerez Joséphine. »« Bien, madame. » On lui changeait son nom comme on le change à un toutou qu'on achète. Vous comprenez ? Eh bien, c'était épouvantable.
Dominique Khalifa, c'est tout un autre monde qui surgit.
Le contexte change dans ces années 60. Vous savez, on a toujours besoin d'inventer l'histoire dont on a besoin. Or, en 1960, beaucoup de choses sont en train de se transformer. D'abord, cette ville de Paris, on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur l'importance de Paris dans l'imaginaire Belle Époque, mais Paris est en train de changer. Le Paris qui est en train de surgir à la fin des années 60, c'est le Paris pompidolien, c'est un Paris qui voit surgir, qui voit monter les tours de la Défense, le périphérique, qui détruit les Halles, qui fabrique le front de Seine, c'est plus le Paris de la Belle Époque. Or, depuis 1860 et jusqu'en 1960, ce Paris de la Belle Époque était demeuré très dominant.
Mais d'ailleurs, c'est dans les années 50 qu'on a restitué le Maxime d'avant la guerre, ou le Moulin Rouge.
Qui rouvre, effectivement, le Moulin Rouge avait réouvert en 51, et voilà. Hein. Donc là, cette fin des années 60, voit surgir un autre Paris qui est un peu en décalage avec l'imaginaire de l'époque, et puis surtout, bah, le contexte est très très différent, effectivement. C'est plutôt l'envers de la Belle Époque qu'on a envie dans ces années 60 contestatrices, dans ces années 60 effectivement marquées par l'affirmation des minorités, de voir ressurgir. Et donc, les acteurs de la Belle Époque qui vont effectivement être très présents à l'époque là, c'est plus le gratin, comme on disait, qui va dîner chez Maxime, mais ce sont les ouvriers en grève, ce sont les premières militantes féministes, ce sont
les bagnards
qu'on envoie à Ken, les apaches dont on peuple les rues, les anarchistes qui mettent des bombes, effectivement, et qui font trembler la bonne société. Le poids des années 68 et au-delà est extrêmement déterminant dans le rideau nouveau qui se lève sur la scène de la Belle Époque. Je dois écrire quelque part dans le livre qu'à partir de là, l'ère de la Belle Époque devient rouge et noir. Hein, et effectivement, c'est très important. Ce qui nous montre bien que l'histoire, que autant nous cherchons toujours à coller aux faits, mais les faits sur lesquels nous focalisons notre attention changent en fonction de nos besoins et de nos contextes. Et la Belle Époque qui ressurgit dans les années 60 et 70, et même au-delà, c'est une belle époque, effectivement, de l'envers du décor.
Vous avez travaillé d'ailleurs sur les Apaches.
Oui.
La bande à Bono devient très populaire dans ces années-là.
Il y a un très beau film où Jacques Brel va en 68, le film est tourné en 68, le film de Forestier, où Jacques Brel va incarner Raymond la science. Et là, vous voyez, c'est une toute autre belle époque qu'on est en train de voir surgir. C'est aussi une belle époque qui va avoir tendance à s'élargir hors de Paris d'abord, et puis même hors de France.
Oui, il y a une double contestation en France. C'est une contestation, une triple plutôt, une contestation provinciale, une contestation du côté de ceux qui mettent en cause cette prétendue unanimité dans la prospérité, et puis une contestation de caractère industriel ou industrialiste. Vous évoquez Pompidou dans une fameuse conférence de presse en novembre 1972. Il s'écrit « Chère vieille France », avec ironie, la bonne cuisine, les folies bergères, le gai Paris, la haute couture, les bonnes exportations du cognac, du champagne et même du Bordeaux et du Bourgogne, c'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle. C'est aussi un enterrement de la Belle Époque.
Absolument. Cela dit, effectivement, mais pour autant, il va être difficile d'en finir avec la chère vieille et belle France, parce qu'on va la voir ressurgir par d'autres façons. Hein, c'est un peu, on fait sortir la Belle Époque par la cour et elle revient un peu par la fenêtre. Il y a une chose qui m'a beaucoup fasciné quand j'ai fait sortir ces milliers de documents de la Belle Époque, c'est qu'il y a toute une série d'images qu'on avait oubliées et qui vont ressurgir un petit peu plus tard, à la fin des années 70.
Vous pensez aux cartes postales?
Les cartes postales, effectivement. Vous savez que la France de 1900 publie quelque chose comme 120, 130, 150 millions de cartes postales par an. Les gens s'écrivent, on fait des cartes postales surtout. Ces cartes postales, on les avait un peu oubliées. Enfin, elles collaient pas avec la Belle Époque des années 40 ou des années 50. On les voit ressurgir là, à la fin des années 70, et plus encore dans les années 80. Au départ, pour une raison toute bête, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître les premiers collectionneurs et les premières collections qui vont faire des argus de cartes postales. Donc, ils les classent, la cote monte, donc les gens s'y intéressent. Simplement, ces cartes postales de 1900. Elle nous montre une France qui est très différente. C'est pas la Belle Époque de chez Maxime et la Belle Époque du Moulin Rouge et des grands dîners mondains qu'évoquait Cléo de Mérode ou Grec tout à l'heure.
C'est la province profonde.
C'est la province.
Comme on a encore le droit de le dire à l'époque.
Absolument. C'est les gens du village qui posent devant le café ou la mairie. C'est les artisans au travail. C'est les laboureurs. C'est une France des terroirs. Et on est, et c'est pas un hasard, on est au moment effectivement de la grande vague patrimoniale des années 80, qui voit ressurgir le rétro, qui voit ressurgir les chemises des grands-pères, les objets qu'on a dans les greniers de famille, etc., etc. Mais en même temps, c'est très intéressant parce que d'abord, la Belle Époque quitte Paris pour s'incarner dans tous les coins de la France, mais en même temps, elle se démocratise. On parlait tout à l'heure des ouvriers et des bonnes dont l'historiographie fait ressurgir l'existence dure, très dure, terrible, même en 1900. Mais on voit aussi la belle époque des sabotiers, des chaudronniers, des viticulteurs du Languedoc ou de Champagne, qui sont à l'époque lancés dans des grands mouvements sociaux. On voit tout ça.
C'est la France du Parti radical.
Oui, c'est la France. C'est la France des 22 000 maires du banquet de 1900, également. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde a ça chez soi ou presque. On fait des livres avec ça. Il y a un éditeur bruxellois extrêmement, extrêmement malin qui a lancé des collections de livres qui s'appellent mon village à la Belle Époque, il y a toutes les villes de France, hein, Colmar, Besançon, Toulouse, etc. C'est des collections de cartes postales, avec un commentaire assez bref. Il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de ces livres qui ont été publiés dans les années 80.
Et c'est vrai que la Belle Époque devient nationale, et comme vous le disiez, quasiment internationale.
Oui, il y a deux choses là. Il y a le fait que deux langues, l'italien et le portugais du Brésil, pas le portugais du Portugal, vont s'approprier Belle Époque pour parler de leur propre histoire. Donc on va avoir dès les années 60 des Roma Belle Époque, Venezia Belle Époque, Napoli Belle Époque, et puis on a aussi des Rio Belle Époque.
Influence française.
Influence française, mais ils se l'approprient vraiment et en français. Et puis le deuxième élément d'internationalisation, il est assez différent. Il passe surtout par les grands musées, les catalogues, notamment anglophones. C'est de prendre Belle Époque, toujours en français, comme une sorte de mot-clé pour caractériser un état de la culture européenne, et notamment de la peinture européenne. Hein, on va voir se multiplier à New York, à Washington, en Allemagne, en Belgique, des grandes expositions sur la Belle Époque qui perd un peu son identité française pour parler en quelque sorte de la puissance et du rayonnement de l'art européen en 1900, mais avec quand même toujours un Paris qui est très présent, parce que Paris était quand même au cœur de ce rayonnement artistique. Donc, vous voyez, le mot va voyager en quelque sorte, la catégorie va voyager, va se compliquer, et va effectivement prendre des significations un petit peu différentes à l'aube du troisième millénaire. Hein, ça devient en quelque sorte une sorte de symbole du miracle culturel européen.
Eh bien, nous nous en tiendrons là, Dominique Khalifa, nous arrêterons à l'aube de ce millénaire, attentif néanmoins avec vous, à toutes les mutations ultérieures que l'idée de Belle Époque peut encore rencontrer. Votre livre, auquel je rends hommage, s'appelle « La véritable histoire de la Belle Époque ». Véritable, vous avez raison d'être ambitieux, véritable, c'est vous qui nous l'apportez, vous l'avez bien démontré, cette véritable histoire, parue chez Fayard en 2017. Et puis vous nous annoncez, nous l'attendons avec gourmandise, vous nous annoncez un livre qui va apparaître dans quelques semaines, consacré à Fantomas. Le livre s'appellera « Tu entreras dans le siècle en lisant Fantomas ». Notre siècle ou le siècle précédent ?
Le 20e.
Avec des gouaches originales de Camilla Farina. Et c'est un livre qui paraîtra chez Vendémiaire. Je voudrais également citer le livre de Jacqueline Lalouette qui est paru il y a 4 ans chez Talendier, « La France de la Belle Époque ». Hommage aussi à deux ouvrages, un de Michel Vinocq qui s'appelait « La Belle Époque », paru chez Perrin en 2003. Et puis également apparaître en octobre, ce mois va être fécond, Dominique Khalifa, le prochain ouvrage de Michel Vinocq également, « Décadence, fin de siècle », qui sera probablement consacré surtout, principalement, à la vie intellectuelle. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, que j'ai eu grand plaisir à retrouver ce matin, vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Je sais qu'en dépit de l'été, vous vous le rappelez sûrement. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, puisque la rentrée des classes réintroduit au premier plan de l'attention publique la question des rythmes scolaires, nous parlerons des rythmes du savoir au Moyen-Âge, à l'école et à l'université. Je recevrai pour cela Jean-Claude Schmitt. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son U2 Diego Aclopès, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Amélie Briand-Lejeune pour les archives de l'INA. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.